Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, chers confrères, chers ordinants, mes bien chers frères, nous voici réunis encore une année de plus, ici, au séminaire d'Écône, la maison mère de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, afin de conférer le diaconat et le sacerdoce, afin d'accomplir par là ce qui constitue la vocation et la mission de la fraternité. Il s'agit de transmettre, conserver, vivre le sacerdoce catholique afin d'assurer la pérennité de la foi et de l'Église catholique. Le prêtre est un alter Christus, un autre Christ. Il agit in persona Christi, dans la personne du Christ. C'est donc vraiment le sacerdoce du Christ parmi nous. C'est la présence du Christ parmi nous. Le prêtre assure la continuité des bienfaits de l'incarnation de notre Seigneur, de sa vie, son enseignement, sa grâce, de sa rédemption. Et c'est là vraiment ce qui est l'essentiel au travers de cette crise, crise de foi, crise de l'Église. Mais il est évident que nous ne pouvons pas nous abstraire, ignorer la situation dans laquelle nous sommes et surtout la situation de la Sainte Église. À vrai dire, pour l'essentiel, rien ne change. Pour l'essentiel, il n'y a rien de changé. Monseigneur Lefebvre avait bien vu et défini quel est le mal de notre temps, de la société, et surtout le mal dans l'Église. Et ce mal s'appelle tout simplement le libéralisme. C'est cette conciliation, cet essai de conciliation entre l'Église et le monde, entre la foi catholique et les principes libéraux, entre la religion catholique et la pensée issue de 89. Tout est là. Tout le problème gît là. Tous les restes, ce sont des justifications théoriques, subtiles, sophistiquées, modernistes, théologiques, modernistes, pour justifier cette adaptation faite par le Concile Vatican II et par les autorités, avec le monde issu de la Révolution, avec le monde libéral. Et je voudrais vous citer quelques paroles du alors cardinal Ratzinger, qui affirme avec simplicité et clarté précisément cela. Et par un souci de fidélité et de précision, je vais vous les lire. Elles sont assez courtes. Vatican II avait raison de souhaiter une révision des rapports entre l'Église et le monde, car il y a des valeurs qui, même si elles sont nées hors de l'Église, peuvent, une fois examinées et amendées, trouver leur place dans sa vision. Deuxième texte. Le problème des années 60 était d'acquérir les meilleures valeurs exprimées par deux siècles des cultures libérales. Et le troisième texte, d'abord le pape actuel, Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, montre comment c'est la constitution Gaudium et Spes qui est le testament du Concile, qui déclare son intention et définit sa physionomie. Et alors, il dit ce qui suit. Si l'on cherche un diagnostic global du texte de Gaudium et Spes, on pourrait dire qu'il est en liaison avec les tests sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Le texte joue le rôle d'un contre-syllabus dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde, tel qu'il était devenu depuis 1789. Voilà des textes et des affirmations assez claires. C'est un aveu d'importance capitale, autorisé, et qui nous dispense d'éprouver ces affirmations. Si eux-mêmes confessent que c'est comme cela, nul besoin que nous l'éprouvions. Vatican II a été bel et bien une conciliation de la religion catholique, de la foi, de l'Église, avec le libéralisme, avec la Révolution et les principes de la Révolution française, avec même, comme le pape le dit ailleurs, de la pensée de la foi avec la pensée des Lumières. Et ces affirmations appellent plusieurs réflexions, plusieurs remarques. Car tout d'abord, comment est-il possible qu'il y ait des valeurs touchant si essentiellement l'ordre naturel et surnaturel, et pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'Église avant et après les conciles, comment peuvent-ils, ces valeurs, naître en dehors de l'Église? Alors l'Église n'est pas la dépositaire de la vérité. L'Église catholique n'est pas la vraie Église. Et alors, d'autre part, la vérité évolue au gré de l'histoire et du temps, des cultures et des lieux. Ensuite, il n'est pas vrai de dire que ce sont des valeurs nées en dehors de l'Église. Déjà, un auteur comme Chesterton disait que les idées de la Révolution française, ce sont des idées catholiques devenues folles. Et nous pourrions dire avec plus de précision, ce sont des vérités catholiques indûment transposées dans l'ordre naturel. Des idées qui sont vraies dans l'ordre surnaturel et avec des limites, mais transposées directement dans l'ordre naturel. Et alors, si vraiment le Concile Vatican II avait pris les valeurs libérales et les avait corrigées, purifiées et amendées, alors on aurait retrouvé tout simplement la vérité catholique de toujours, puisque ce sont des vérités chrétiennes déformées. Le libéralisme est une hérésie chrétienne, catholique, de par son origine, je veux dire. Ensuite, c'était quand même téméraire de vouloir cette conciliation alors qu'un magistère constant des papes, pendant 2 siècles et demi, a condamné ces valeurs, ces supposées valeurs. Ils étaient condamnés en gros et en détail. Il était même condamné non seulement la possibilité d'une telle conciliation, mais même il était condamné d'affirmer la nécessité d'une telle conciliation. C'est le syllabus, c'est Pie IX. Et là, il y a un des péchés originels du concile. Très souvent, ils nous mettent devant les yeux le magistère et l'autorité. Souvent, c'est le seul argument qu'ils ont. Alors que eux, ils ont commencé pour se débarrasser d'un magistère de 2 siècles et demi et de faire précisément ce que les papes avaient à l'avance condamné. C'est plus que téméraire. Ensuite, on cherche une conciliation avec le monde, avec un monde éloigné et opposé à Dieu. Éloigné de Dieu, opposé à Dieu. Voyez le monde. Il suffit de regarder autour de nous pour comprendre de quel monde il s'agit. Bon, l'Écriture est très claire. Saint Jean nous dit, tout ce qui vient du monde est concupiscence de la chair, concupiscence des cieux et orgueil de la vie. Et l'apôtre Saint Jacques, il disait aux chrétiens, adultères, ne savez-vous pas que l'amitié de ce monde, c'est une inimitié contre Dieu. Quiconque veut donc être ami de ce monde se rend et s'établit ennemi de Dieu. Car, en dernière instance, quelle est l'essence et la substance, le noyau de cette pensée libérale ? Les papes et les grands auteurs du 19e, du 20e siècle l'ont déjà tout dit. C'est tout d'abord le naturalisme. C'est la négation de l'ordre surnaturel, de la révélation, de la grâce. Et en conséquence, et dans cet ordre, négation de l'Église, du Christ, des dieux. Le naturalisme cohérent aboutit à l'athéisme. Et le communisme est là pour nous le rappeler. On n'avait jamais vu une telle horreur dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, c'est l'esprit d'indépendance et de rébellion. Indépendance par rapport à tout, indépendance de l'homme, de l'intelligence par rapport au vrai, de la volonté par rapport au bien, de l'homme par rapport à Dieu, par rapport à l'autorité. Et troisièmement, c'est la déification de l'homme. Déjà Saint Pilly le signalait. L'homme se substitue à Dieu. Il s'est fait Dieu. Et il se redonne la gloire à lui-même et la création à lui-même. Donc on a tenté, on a essayé une conciliation avec ces idées-là. Foncièrement et radicalement contraire à la foi catholique, mais tout simplement à l'ordre naturel, à la réalité. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une tentative de conciliation, ils n'ont pas réaffirmé ces principes tels quels. Ils n'ont pas nié leur surnaturel, mais ils l'ont réduit et inclus dans la nature. Ils n'ont pas nié l'Église, mais ils ont mis l'Église au service du monde, le royaume des cieux dans la terre, au service du monde, et au service de cette entreprise humaniste, de l'unité du genre humain et de la paix, toujours dans l'ordre naturel. Voyez Assise, par exemple, Assise 3, qui est présenté tel quel, comme ça. Ils n'ont pas nié le Christ, mais ils ont mis le Christ au service de l'homme. Le Christ est uni à tout homme. Il révèle l'homme à l'homme, et avec sa grâce, il fait que l'homme soit un parfait homme. Voilà leur doctrine. Ils n'ont pas à s'affirmer l'indépendance absolue de l'homme par rapport à Dieu. Mais ils sont passés de l'ordre objectif à un ordre subjectif. Objectivement parlant, oui, il y a un Dieu, il y a une vraie religion, il y a une vérité. L'homme aurait une obligation morale d'y adhérer. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, l'homme se sauve en suivant sa conscience, sa vérité, et surtout en exerçant sa liberté. Car c'est là la dignité ontologique et sacrée de l'homme, l'exercice de la liberté, non dans le sens traditionnel. La liberté de se mouvoir dans le bien, mais le simple fait d'élire entre le bien et le mal. L'homme trouve là sa perfection et son salut. Ils n'ont pas affirmé la divinité de l'homme. Mais ils ont opéré ces retours anthropologiques par le personnalisme qui a mis le bien commun et tout bien commun au service de l'homme, individuellement, de la personne. Et en dernière instance, on met au service de la personne le bien commun divin, universel, suprême, qui est Dieu, car Dieu est le bien commun suprême. C'est pour cela que le Concile affirme que l'homme est la seule créature que Dieu aime pour elle-même. Que Dieu aime pour elle-même, et que Dieu trouve sa gloire dans la gloire de l'homme. Non pas dans la gloire que l'homme rend à Dieu, mais dans la glorification de l'homme. Et donc, ça y est, nous avons le même but que les libéraux, les humanistes et les révolutionnaires. Pas de problème. On cherchera tous la glorification de l'homme, et par là, on obtiendra aussi la gloire de Dieu. Mais alors Dieu est fini et perfectionné par la gloire de l'homme. Rien de moins. Voyez comment il est impossible, cette conciliation. Et ils ont appliqué rigoureusement toutes les conséquences. Monseigneur Lefebvre nous disait, ils l'ont découronné. Oui, ils ont systématiquement méconnu la primauté et la royauté de notre Seigneur. Ses droits, les droits de Dieu. On est pour le droit de l'homme. Négation des droits de Dieu. La déclaration des droits de l'homme. Et ils ont découronné notre Seigneur à lui-même. Dans ses droits, par la liberté de conscience, par la liberté des pensées, par la liberté du péché, par la liberté des cultes, par la liberté religieuse. Il a été découronné, vraiment. Mais ils ont découronné aussi notre Seigneur dans son Église, par l'œcuménisme. Car si le Christ est roi, l'Église est la reine. Et ils ont découronné notre Seigneur dans son vicaire et dans ses évêques, des princes, par la collégialité et par la démolition, en dernière instance, de toute autorité. Voilà la pensée avec laquelle le Concile a tenté la conciliation. Et alors, bien sûr, maintenant, il y a la conciliation de la conciliation. Entendez l'herméneutique de la continuité. Et il y en a même qui nous rassemblent, ou qui étaient des nôtres et ne sont plus des nôtres, qui tentent la conciliation de la conciliation de la conciliation. Alors, peine perdue, leur entreprise est vouée à l'échec d'avance. Bonum ex integra causa, malum est quocunque defectu. Le bien procède d'une cause ou des causes totalement bonnes, intègres. Le mal n'importe quel défaut dans la cause. Mais en plus ici, il s'agit d'un défaut essentiel, car c'est l'essentiel de la pensée libérale qui est totalement et radicalement contraire à la foi catholique. C'est la chose elle-même qu'on cherche à concilier qui est contraire. On ne peut pas faire un cercle carré. C'est impossible. On ne peut même pas les concevoir. C'est du bon sens. On peut demander à quelqu'un de Martigny si on peut aller en même temps à Rome, la ville éternelle, et à Paris, la cité des Lumières. Demandez-lui si on peut prendre d'ailleurs le même chemin pour arriver à ces deux termes. En Espagne, on dit que cela revient à mettre un cierge à Dieu et un autre cierge au diable, au démon. Et oui. Déjà, l'apôtre saint Paul l'avait dit plus souvent dans ces termes. Ne vous attachez pas avec les infidèles en même joug, car quelle société peut-il avoir entre la justice et l'iniquité? Quelle conciliation entre les lumières et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial, entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Or, dit saint Paul, le temple de Dieu, c'est l'Église. Alors, quelle conciliation peut-il avoir? Aucune. Et si Mgr Lefebvre nous a signalé avec précision le mal, il nous a dit aussi avec précision et clairvoyance le remède. Il nous a signalé le remède. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est plus précisément le Christ prêtre et le Christ roi. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de rédemption possible, ni pour les individus, ni pour les sociétés, en dehors du sacerdoce et en dehors de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il accomplit sa mission et par son sacerdoce et par sa royauté. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par la main de Dieu, le Christ Jésus, Saint-Pierre, Saint-Paul. Et Saint-Pierre, qui dit dans le même sens, la pierre qui a été rejetée par les architectes, par les constructeurs, est devenue la pierre d'angle, car il n'y a pas de salut dans aucun autre, dans personne d'autre, si ce n'est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre nom sous les cieux, sous le ciel, par lequel les hommes puissent être sauvés que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, veut fonder notre espérance fermement, il nous rappelle comment Dieu, le Père, a déployé sa puissance et la puissance de sa force en ressuscitant notre Seigneur des morts et en le faisant s'asseoir à sa droite et mettant sous lui, sous son autorité, toute principauté, toute autorité, toute domination, tout trône. Et tout ce qui peut se nommer en ces siècles et dans les siècles à venir. Donc Dieu lui a tout soumis en ces siècles et dans les siècles à venir. Il a constitué chef de l'Église, qui est son corps. L'Église, la plénitude de celui qui est tout en tous. Donc, le Christ est tout en tous dans l'Église. Et Dieu lui a soumis tout. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre est encore plus clair. C'est là qu'il lui a tout soumis. Il n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Il n'y a rien laissé en dehors de son empire, de sa royauté. Et donc, o porte-t-il un regnare? Il faut qu'il règne. Et dès là que l'idéal du prêtre, du sacerdoce, c'est de tout fonder à notre Seigneur Jésus-Christ, de tout instaurer, de tout restaurer, dans le Christ, mais aussi de tout réunir et récapituler, de tout ordonner à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est à vous, vous êtes au Christ, le Christ est à Dieu. Voilà les desseins des dieux de toute éternité, de tout restaurer et de tout réunir dans le Christ. Et en dehors de son sacerdoce et de sa royauté, la vie de l'homme est un cauchemar sans issue. Et nous les voyons bien dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Il n'y a ni vérité, ni vertu, ni grâce, ni salut, ni rédemption, ni justice. Tout cela nous vient par notre Seigneur, par son sacerdoce, par sa royauté. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et donc, chers confrères, chers ordinants, la vie du prêtre est justement de soumettre toute intelligence à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, et toute volonté à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie. Et d'offrir à tous les hommes la seule voie du salut, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si les choses sont comme cela, quelqu'un pourrait me dire, mais alors, pourquoi avoir des contacts avec ces gens-là? Pourquoi aller à Rome? Il semblerait que par principe, il ne faut pas avoir de contact, aucun contact avec eux. Eh bien, c'est tout le contraire. Par principe, il faut que nous ayons des contacts. Et par principe, il faut que nous allions à Rome. Ensuite, évidemment, c'est la prudence qui détermine les circonstances et qui détermine ce qu'il faut vraiment faire dans un cas concret. Mais par principe, il faut y aller. Et tout d'abord parce que nous sommes catholiques, apostoliques et romains. Ensuite, si Rome est la tête et le cœur de l'Église catholique, nous savons que nécessairement la crise trouvera sa solution, la crise se résoudra à Rome et par Rome. Et en conséquence, le peu de bien que nous ferons à Rome est beaucoup plus grand que les beaucoup de bien que nous ferons ailleurs. D'autre part, Caritas Christi urget nos. La charité du Christ nous presse. Il faut comprendre combien difficile il est de quitter l'erreur alors qu'on a vécu toute sa vie dans l'erreur. Qu'il est extrêmement difficile d'avoir la lumière et la force pour rompre avec tout un tas d'attaches d'ordre naturel. Toute une vie vouée à cela, tout un enseignement, avec la caution de l'autorité et les conséquences qui s'en suivent. Reconnaissons qu'il n'est pas facile et ayons pitié, car enfants, ils ont besoin tout simplement de ce que nous avons déjà reçu gratuitement, la lumière et la grâce. Car qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons pas reçu ? Eh bien, eux, ils ont besoin tout simplement de recevoir ce que nous avons eu la grâce de recevoir déjà, d'avoir déjà, par la miséricorde et la largesse de Dieu. Donc la charité nous en fait un devoir. Ceux qui s'opposent farouchement et par principe à tout contact avec le moderniste, avec Rome, me rappelle un passage de l'Évangile. Lorsque notre Seigneur n'a pas été reçu dans une ville, et alors Jacques et Jean, les fils du tonnerre, proposent à notre Seigneur, s'il le veut, de faire tomber du feu du ciel pour consommer cette ville. Et notre Seigneur, indulgent, il passe par cet orgueil monumental, mais naïf, des apôtres. Mais il y était quand même. Comme si notre Seigneur avait besoin d'eux pour résoudre les problèmes. Et il répond aux apôtres, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Et oui, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit qui répand la charité dans nos cœurs. Et ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient. Et ils étaient tombés dans le sel amer. Et quel est cet esprit ? C'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas trop compliqué. Il faut regarder comment notre Seigneur a-t-il fait devant ses ennemis, ses adversaires. Eh bien, aussi bien Saint Jean que Saint Paul nous disent, c'est en cela que nous avons vraiment connu l'amour de Dieu, que le Père nous a aimés et le Christ a donné sa vie pour nous, alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions ses ennemis. C'est là surtout qui se manifeste la charité de Dieu. Et nous avons cru à cette charité. Alors nous devons faire de même. Cet amour de notre Seigneur s'est manifesté comment ? Dans la guerre, les anathèmes, les condamnations, en faisant tomber du feu du ciel. Non. Cette œuvre d'amour s'est accomplie par l'humilité, par l'humiliation, par l'obéissance, par la patience, par la souffrance, par la mort, et en pardonnant encore ses ennemis sur la croix. Et tout le long de sa vie, notre Seigneur a déployé tous les moyens possibles et raisonnables pour faire admettre la vérité de la part des pharisiens et pour leur offrir le salut et le pardon. Voilà tout simplement ce que nous devons suivre. Je ne vois pas en quoi la fermeté doctrinale serait contraire à la souplesse, à l'ingéniosité et même à l'hardiesse de la charité. Je ne le vois pas. Je ne sais pas en quoi l'intransigeance doctrinale serait contraire aux entrailles de miséricorde et aux sels missionnaires et apostoliques par charité. On n'a pas à choisir ou la foi ou la charité. On doit embrasser les deux. Et encore, sans la charité, je ne suis rien. Même si j'ai une foi à déplacer des montagnes, si je n'ai pas de charité, je ne suis rien. Si je donne ma vie pour les pauvres, que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Lisez l'éloge. Rédissez l'éloge de saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, l'éloge de la charité. Appliquez cela à la vie de notre Seigneur et vous aurez, sans confusion possible, vous saurez quel est l'esprit catholique chrétien. La charité est patiente. La charité est bonne. Elle n'est pas envieuse. La charité ne cherche pas son intérêt. Elle ne rend pas, ne tient pas compte du mal. Elle rend le bien pour le mal. La charité excuse tout, croit tout, espère tout, souffre tout. Voilà comment nous pourrons vraiment coopérer à la restauration de la foi, à cette restauration de toutes les choses dans le Christ. Et si le remède consiste dans le Christ, dans la sacerdoce et la royauté du Christ, ce remède passe nécessairement par le cœur de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Notre Seigneur a été et sera toujours le fruit exclusivement de la Vierge Marie, du cœur de Marie. C'est elle qui est la mère du Christ, mère de Dieu, la mère de tous les hommes, la co-rédemptrice du genre humain, la médiatrice de toutes les grâces et celle qui distribue et qui donne toutes les grâces. Elle est vraiment la reine de toute la création, reine du ciel et de la terre, de la terre. Comme le dit Saint Bernard, nous avons tout obtenu par la Vierge Marie. Nous devons donc aller avec ferveur, dévotion, constance au cœur de Marie afin d'obtenir les grâces qui nous sont nécessaires. Et surtout cette vie forte dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, car il nous faut aimer fortement, avec force. Allons donc vraiment et souvent, surtout par notre dévotion vraie et intérieure, au cœur de Marie, à ses trônes de la grâce, afin d'obtenir le secours nécessaire au temps opportun, afin d'être en dernière instance des vrais chrétiens et des vrais prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers séminaristes, bien chers fidèles, nous sommes aujourd'hui au dimanche de la Sexagésime. Ces dimanches qui précèdent le carême, qui sont déjà un avant-goût du carême, qui sont déjà à inscrire dans cette préparation de la grande, grande fête de Pâques. Et de toute l'année liturgique, on peut dire que c'est sur ce temps-là où on voit le plus l'attention de l'Église, comment elle a sculpté, comment elle a préparé, disposé toute cette liturgie, tous ces textes pour nous préparer, pour nous disposer à la fête, à la toute grande fête de Pâques. La sexagésime, ça vient du latin. On a quelque chose comme 60 là-dedans. En latin, on comprend un peu mieux Dominica in sexagesima. C'est le dimanche dans la soixantaine. La soixantaine des jours qui précèdent Pâques. Et en plus, ça joue. C'est pas le 60e jour, on en est à 56, mais effectivement, passé le nombre 50, on rentre dans la 6e décade, donc dans la 60e partie de jour avant Pâques. Ainsi, 50, la quinquagésime, on sera à 49, donc on est dans cette 5e dizaine. Et après, bon, avec le carême, on arrivera aux 40. Pourquoi le mercredi saint, alors? Parce que les jours du dimanche ne comptent pas pour le jeûne. Donc on a rajouté 4 jours pour arriver au mercredi, descendre. Toute une préparation, mes bien chers frères. Préparation à la fête de Pâques. Une invitation à se purifier, puisque c'est là qu'on célèbre, surtout dans la grande, grande semaine, la semaine sainte, les grands événements, la mort de notre Seigneur, sa passion, tous ces mystères de notre rédemption, qui culminent avec la résurrection, où on voit d'une part donc la mort de notre Seigneur, par cette mort, eh bien, il paye pour nous, et ayant expié nos péchés, il nous donne sa vie, il nous la communique sa vie. C'est l'événement aussi choisi par l'Église, parmi tous, pour conférer le baptême. Le baptême qui nous configure au Christ. Saint Paul a des paroles extraordinaires pour montrer comment nous sommes unis à notre Seigneur dans le baptême. Il nous dit que nous sommes comme mortui, morts avec lui, con sepulti, ensevelis avec lui. Et puis après, con resuscita vite, pour être ressuscité avec lui à la vie de Dieu. On meurt au péché pour ensuite vivre de la vie de Dieu. Et ce baptême d'adulte, eh bien, il était préparé pendant tout ce temps du carême. Et on voit dans la liturgie, certains jours, quelques-uns de ces éléments de cette préparation. Il y avait de l'instruction, Il y avait des examens, il y avait des jours de scrutin, et ici ou là, on voit encore quelques traces de cette préparation. Évidemment, puisqu'il s'agit de mourir au péché, c'est un temps de purification, c'est un temps de pénitence. Et pourquoi la pénitence ? Eh bien, tout d'abord parce qu'il faut être conscient du péché. Et quand on est conscient du péché, eh bien, on est tout petit devant le bon Dieu. Et j'allais dire, si on est, pas exactement le mot qu'il faudrait utiliser, si on est trop obsédé par cette question du péché, il y a un danger. C'est le danger du désespoir. Désespoir qu'on voit, par exemple, chez Luther. Il arrive à dire tellement que l'homme, c'est rien que du péché, qu'il va dire que l'homme ne peut rien faire de bon. C'est même un blasphème que de prétendre qu'il pourrait y avoir quelque chose de bien, que l'homme pourrait faire quelque chose de bien. Alors l'Église, qui d'un côté veut insister pour dire aux hommes, il faut vous convertir, pourquoi ? Parce que vous êtes des pécheurs. En même temps, elle ne veut pas laisser l'homme dans ce désespoir, dans ce découragement. On voit bien, ça peut arriver. Quand on essaie de se corriger, ça ne marche pas. Pour finir, le grand risque, c'est se décourager. Et l'Église, qui veut nous conduire jusqu'à la sainteté, elle ne veut pas de ce découragement. Et c'est pour cela qu'en même temps qu'elle insiste pour nous dire « Faites attention, il y a le péché », en même temps elle nous dit « Mais regardez la grâce, le bon Dieu, il est là pour vous aider, il faut compter sur lui ». Et quand vous comptez sur lui, quand vous laissez cette grâce agir, quand vous coopérez avec cette grâce, alors vous pouvez faire des merveilles. C'est par exemple l'épître d'aujourd'hui qui nous donne cet exemple vraiment fantastique de la vie de saint Paul. Saint Paul qui, dans l'épître d'aujourd'hui, décrit ce qu'il a fait en montrant d'un côté, au départ, c'est un pécheur, c'est un persécuteur des chrétiens. Il se convertit et ensuite, une fois converti, bien, il ne reste pas là. Ça va être le grand apôtre des païens, des gentils, comme on dit, des nations. Et ça ne se fera pas tout seul. Que de misère, des naufrages, la prison, des flagellations, des bastonnades. Et il n'y a plus rien qui l'arrête. On voit là ce feu du bon Dieu, ce feu du Saint-Esprit en lui. Et d'un côté, après avoir montré même les grandes grâces, des visions, il va dire en même temps, le bon Dieu me laisse dans la faiblesse, il ne veut pas que je m'exalte, il ne veut pas de l'orgueil. Et je lui ai demandé plusieurs fois qu'il me délivre de ces misères humaines. Et puis le bon Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la tribulation qu'est menée à la perfection la vertu. Et donc, saint Paul de dire, eh bien, alors ben, je vais me glorifier quand je vois cette faiblesse. Ce n'est pas une contradiction. On ne va pas se glorifier de sa faiblesse à cause de la faiblesse. Mais parce que cette faiblesse, cette misère des hommes, elle appelle la miséricorde du bon Dieu. Donc, une invitation à faire beaucoup, à porter beaucoup de fruits. D'un côté, des fruits de pénitence, oui, mais aussi des fruits de sainteté. Et en même temps, mes bien chers frères, dans cette structure extrêmement complexe de la liturgie, Pâques, c'est bien sûr notre Seigneur. Et c'est notre Seigneur, c'est le centre de toute l'histoire. Et ainsi, ces dimanches qui précèdent Pâques, ça, on ne le voit pas directement à la messe, mais on le voit dans le bréviaire. Eh bien, chaque dimanche va être dominé par une des figures, des grandes figures de l'Ancien Testament. On a commencé avec la Septuagésime, eh bien c'était Adam. Aujourd'hui, avec les Sexagésimes, c'est Noé. Ensuite, ce sera Moïse, David, et ainsi de suite. Les gens s'en sont sautés quelques-uns, pour résumer, je n'ai pas le temps de passer tout en revue. Mais aujourd'hui, avec Noé, évidemment, quand on dit Noé, on dit le déluge. Et le déluge, ce n'est pas de la fantaisie. Ça s'est bel et bien passé. Et dans chacune de ces figures, eh bien, il y a une image de notre Seigneur. Il y a une prophétie, si on peut dire. Il y a quelque chose qui nous annonce notre Seigneur. C'était quoi le déluge ? C'est la réaction du bon Dieu à la manière dont vivaient les hommes de l'époque. L'Écriture sainte est relativement brève lorsqu'elle décrit comment les hommes vivaient, mais elle en dit suffisamment pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne qu'à ce moment-là, eh bien, les hommes vivaient sans plus s'occuper du bon Dieu. Et quand on ne s'occupe plus du bon Dieu, on se tourne vers les créatures et on pêche. C'est un monde de péché. Les hommes s'occupent. Ils jouent, ils dansent, ils vivent bien. Et on ne pense plus au bon Dieu. Eh bien, cette vie déplaît souverainement au bon Dieu. Encore une fois, l'Écriture sainte a des paroles effrayantes, effrayantes. Le bon Dieu dit qu'il regrette d'avoir créé les hommes. Je regrette. Voilà ce qu'ils font, ces créatures. Je les ai créés pour le ciel. Eh bien, voilà, ils se vautrent dans le monde. Ils m'ont oublié. Ils ne veulent plus de moi. Ils ne pensent plus qu'à la terre. Il regrette. Mais non seulement il regrette, Dieu est juste. Dieu est juste. Cela veut dire, mes bien chers frères, qu'il ne laisse pas passer le péché. Il est patient, drôlement patient. Il va demander à Moïse de construire une arche. Cette construction va durer 100 ans. C'est là qu'on voit la patience du bon Dieu. Il annonce déjà le châtiment à Noé. Il laisse encore du temps aux hommes. Mais le châtiment, il va arriver. C'est la réponse du bon Dieu au péché des hommes. Eh bien, nous survivrons à cette catastrophe terrible que ceux qui seront dans cette arche. Noé, son épouse, ses 3 fils et leurs épouses. Et puis pour les animaux, eh bien, c'est cette fameuse histoire de l'arche de Noé. Eh bien, non seulement il faudra construire l'arche, mais il faudra y mettre tous les animaux, toutes les espèces, afin qu'après le déluge, eh bien, sur la terre, toutes ces espèces ne soient pas perdues. Des scientifiques se sont amusés à faire les calculs et vous disent, ça joue, ça marche. On peut vraiment mettre tous ces animaux dans l'arche, avec la nourriture qu'il faut pour le temps qu'il a fallu, un an dans ce bateau. Et tous les autres hommes sont morts. On a un deuxième exemple dans l'Ancien Testament, aussi spectaculaire, aussi saisissant, où on voit que le bon Dieu donne une leçon aux hommes. C'est bien sûr Sodome et Gomorre, où là on en voit encore les traces aujourd'hui, du déluge, on ne voit plus grand-chose, c'est un peu estompé, tandis que celle de Sodome et Gomorre, on le voit. Ce sont des rappels aux hommes pour leur dire, mais faites attention, vous vivez mal, eh bien vous allez être châtiés. Ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, on le trouve aussi dans le Nouveau. Si on regarde ce livre qu'on appelle l'Apocalypse, on voit très très bien que le bon Dieu va châtier le monde s'ils n'obéissent pas, s'ils ne se soumettent pas à la loi du bon Dieu. Et quand on lit l'Apocalypse, je ne veux pas dire que c'est pas loin du déluge, mais c'est bien ça. Quand on regarde les sept plaies, ces fioles qui sont jetées, l'eau qui change en sang, les étoiles qui tombent du ciel, c'est vraiment apocalyptique. Et encore une fois, ce n'est pas de la fantaisie, c'est sérieux. Et là, bien chers frères, bien, on est vraiment poussé à faire le parallèle avec notre époque. Et à se demander, mais en regardant comment vivent les hommes aujourd'hui, qu'est-ce qui nous distingue encore de cette époque qui a précédé le déluge? Est-ce qu'il y a vraiment encore des distinctions? Ou si vous préférez Sodome et Gomorre, est-ce qu'il y a aussi, là aussi, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est tellement différent? Le bon Dieu a promis qu'il ne répéterait pas le déluge. Mais il n'a pas promis qu'il n'arrêterait pas ses châtiments. Ça doit nous faire peur. Eh bien, le plus terrible, c'est qu'aujourd'hui, l'Église se tait. Les sentinelles, ceux qui devraient parler, ceux qui devraient avertir les hommes, se taisent. On ne parle plus du péché. On ne parle plus de la justice du bon Dieu. On ne parle plus de la nécessité de réparer. Et ça, la théologie nous enseigne, si pour les hommes, les châtiments peuvent venir après la mort, puisque l'âme est immortelle, lorsqu'on parle des nations, les nations, c'est que sur la terre. Et donc, si une nation, un peuple se comporte d'une manière mauvaise, forcément, le châtiment, ce sera ici-bas, dans le temps. Quand on voit comment les nations, les peuples se comportent envers le bon Dieu, comment ils tournent le dos au bon Dieu, comment ces peuples qui étaient chrétiens rejettent la loi du bon Dieu. Dans leur constitution, dans leur loi, ils ne veulent plus rien de tout ça. Ils se prétendent autonomes, indépendants du bon Dieu. Attention! Si Dieu est patient, à un certain moment, il parle. À un certain moment, il exécute. Et là, il a toute une panoplie. Ça peut être des guerres, souvent, c'est comme ça. Ça peut être des catastrophes naturelles. On oublie, aujourd'hui, c'est même sorti de la tête, on oublie de dire que toute souffrance des hommes a pour cause le péché. Pas nécessairement un péché personnel, parce que justement, il y a une solidarité entre les hommes. Mais il n'y a pas une seule catastrophe naturelle qui touche les hommes qui n'ait pour cause le péché. Même chose pour les guerres, même chose pour les maladies. pour les épidémies, pour tout ce que vous voulez. Toutes ces souffrances des hommes, c'est la conséquence du péché. Et si les hommes vivent mieux, eh bien, il y a moins de ces punitions du bon Dieu. S'ils vivaient tous comme des saints, il n'y en aurait même plus. Mais voilà, ce n'est pas, d'après ce qu'on peut voir, ce n'est pas notre sort sur terre. Néanmoins, justement, il y a une urgence. Quand on voit justement ce monde comme ça, on pense aussi, si on pense à Sodome et Gomorre, quand on pense à cette négociation d'Abraham, il va essayer de négocier avec le bon Dieu, il va essayer de chercher un nombre de justes. Est-ce que si on ne trouve pas un nombre de justes suffisant, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? Et le bon Dieu est d'accord. Il rentre dans la négociation. Je ne sais plus quel saint disait, si Abraham avait été encore les plus bas, peut-être qu'il l'aurait obtenu, mais il s'est arrêté. Oui, les justes peuvent arrêter ce bras du bon Dieu. C'est juste qu'ils font pénitence pour les autres, qu'ils réparent pour les autres, aussi par leur, surtout par leur amour. Les pénitences qu'ils font, qui sont pleines de la charité, valent énormément devant le bon Dieu. Eh bien, un des plus grands châtiments, mes bien chers frères, que nous ayons aujourd'hui, c'est que précisément, ces sentinelles se sont tues. C'est que ceux qui doivent, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, l'Église, qui doit avertir les hommes, qui doit les secouer, qui doit leur dire « mais faites pénitence !» Eh bien, cette voix-là, elle s'est tue. Depuis le Concile, on n'entend plus ces choses-là. Alors on s'en va à admirer le Ramadan. Ah, bravo. Voilà, quand on parle de pénitence, voilà les exemples qu'on trouve. Quelle misère. Eh bien, chers frères, il faut être bien conscient du temps dans lequel on vit. Ça n'est pas un temps normal. Et ça ne sert à rien de paniquer. Donc, si on dit ces choses-là, ce n'est pas pour vous faire paniquer. Que vous ayez un peu peur, c'est très bien. Mais pas au point de paniquer, ça ne sert à rien de paniquer. Au contraire, il faut agir, il faut prendre ces moyens que le bon Dieu nous donne, qui nous indique. Combien de fois, quand le bon Dieu vient nous parler à travers sa mère, qu'il nous envoie comme un messager du ciel, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit à Lourdes? Qu'est-ce qu'elle nous dit à Fatima? C'est vraiment très très simple. Prier et faire pénitence. Prière et pénitence. Vous vous souvenez de l'histoire de Ninive? Encore une fois, là, le bon Dieu envoie un prophète. Cette ville vivait, comment on peut dire, comme avant le déluge. Et le bon Dieu, il annonce déjà, dans 40 jours, cette ville, je la détruis. Mais il envoie son prophète. Eh bien, grâce à cette prédication, la ville s'est convertie. Et puisqu'ils ont fait pénitence, le bon Dieu les a épargnés. Ils ne sont pas allés de main morte, ils ont même fait faire pénitence au bétail. Tout le monde s'y est mis. Mais le roi a pris les choses au sérieux. Et ça montre qu'aujourd'hui aussi, si on prend les choses au sérieux, si on fait sérieusement pénitence, si on demande pardon au bon Dieu, le bon Dieu peut écouter. C'est vrai, et c'est une chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais à Münster, Jean-Paul II, c'était en 1980, a parlé de Fatima. Et il a dit ceci, Il a dit, le châtiment ne peut plus être évité. Il ne peut plus être évité. Mais on peut en diminuer les effets par la prière, par les bonnes œuvres. Une chose qu'il a complètement oubliée, ça. Mais tout au début de son pontificat, effectivement, il a parlé, là, en Allemagne, un tout petit mot sur ce fameux message de Fatima. Il faut prendre au sérieux tout ça. Il ne faut pas se laisser prendre par cette mentalité du monde dans lequel on vit, mentalité qui ne pense que à la jouissance, qu'au plaisir de la terre, et qui se moque, mais royalement, du bon Dieu, de ses commandements. Et après, on arrive à des aberrations, comme cette histoire d'Assise. Il y a du trouble sur la terre, les hommes s'entretuent, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Une espèce de rassemblement de prières, toutes les religions ensemble. Mais comment est-ce que ça pourrait plaire au bon Dieu, une telle chose ? On a l'impression que ce sont des moyens, comme on peut dire, désespérés. On ne sait plus quoi faire. Au lieu de prendre les bons moyens, c'est-à-dire se tourner vers le bon Dieu, si on veut la paix sur la terre, eh bien on se tourne vers le Dieu de la paix, vers le roi de la paix, qui est notre Seigneur. On ne se tourne pas vers Bouddha ou Mahomet. Ça n'a pas de sens. On a l'impression qu'il y a un vent de folie qui passe sur le monde et dans l'Église. Nous allons vous demander de recommencer encore une croisade, mes bien chers frères. Quand on voit justement ce qui se passe, cette répétition d'actes qui vont, on peut dire dans le mauvais sens, qui continue cette crise de l'Église, eh bien oui, ben, il nous reste qu'à continuer avec encore plus d'intensité, à prendre ces moyens indiqués par l'Église, par notre Seigneur, déjà Saint Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit pénitence. Notre Seigneur, il dit, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Donc vraiment une invitation à faire la pénitence. Et ce mot-là aussi, il faut le comprendre comme il faut. Ça ne veut pas dire que vous allez tous aller, je ne sais pas moi, dans des ermitages. Non, il faut vivre votre vie, il faut faire votre devoir d'État. C'est dans ce devoir d'État, déjà simplement dans l'acceptation de ce devoir d'État, dans l'accomplissement fidèle de tous vos devoirs de tous les jours, que vous avez déjà pas mal de pénitence. Puis vous rajoutez des petites choses. Ce qui compte, c'est de les faire avec amour, pour l'amour du bon Dieu. Plus vous y mettez d'amour, plus ces sacrifices, plus ces renoncements ont de valeur. L'amour est plus important que l'acte lui-même. Qu'il faut faire, il faut des sacrifices. Mais ce qui est essentiel dans ce sacrifice, c'est justement la charité qu'on y met, le regret de nos fautes, cette volonté de s'en séparer, de s'en détacher, de réparer, de satisfaire, pour l'amour du bon Dieu. Alors demandons à Notre-Dame de nous aider, demandons à ces patriarches de l'Ancien Testament, demandons à Noé. Le bon Dieu, il a dû lui expliquer un peu ce qu'il allait faire. Demandons à Noé de vivre bien comme lui a vécu, en juste, au milieu de ce monde en pleine décadence, pour être avec lui, on peut dire à son image, pour être nous aussi sauvés. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.